Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
La panenka d'Abdoulaye fait que ce match est pour moi rentré dans l'histoire du club.
L'espoir, moi, objectivement, je ne l'ai jamais perdu.
L'unité de tout un groupe, tout un club, ça génère justement la chance, comme on dit.
Hello les amis, un péno à la 90e minute sur la pelouse de la Méno. L'histoire se répète, mais cette fois c'est à la défaveur du HAC. Défaite 1-0 à Strasbourg dimanche. On y revient avec les habitués du débrief. J'ai nommé Mathieu Billot de Foot Normand, salut.
Salut tout le monde.
Et Luc Gallet du Courrier Cauchois, bonjour.
Bonjour, moi j'ai fait ma rentrée du coup.
Et moi c'est retour de vacances. Un mois donc tout juste après le début de la saison de Ligue 1, on tire aussi un premier bilan. 3 points sur 12 possibles récoltés par un hack bien différent de l'an passé, cela grâce à des recrutements intelligents, même si les poches sont vides. On en parle avec un spécialiste du marché des transferts en duplex avec nous, Josué Cassé. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour à tous, merci pour l'invitation.
Vous êtes normand, natif de Bernay, journaliste depuis 4 ans pour footmercato.net, suiveur particulièrement du PSG et du Havre. Alors à quoi ressemble le quotidien en période de transfert? Comment démêler le vrai du faux? On en parle dans le débrief 100% Hack saison 2, épisode 2.
Il y a forcément beaucoup de frustration parce que au vu du scénario, on ne s'attendait pas à ce score. Après, il y a aussi de la satisfaction parce que on continue de produire du jeu et montrer un beau visage. Malheureusement, on aimerait que ça se concrétise avec des points. Mais après, ce qui est encourageant, c'est que enchaîner autant de bonnes prestations, ça ne devient plus du hasard. Donc, il y a des choses sur lesquelles s'appuyer. Et faut gommer ce qui, malheureusement, on paye très cher jusqu'ici.
Dans le débrief 100% hack, on démarre donc avec les mots de Didier Digard en conférence de presse à l'issue de cette 4e journée de Ligue 1. Des Havrais, je le disais, battus dans les arrêts de jeu grâce à un but de l'Argentin Panikelis sur pénalty après une faute de Loïc Négo dans la surface. Messieurs, on peut se dire que le Havre méritait sans doute plus dimanche dernier. On va commencer avec notre invité, Josué.
Oui, évidemment qu'il méritait mieux, mais c'est dans la continuité du discours de Didier Digard, c'est-à-dire que depuis le début de la saison, on voit un Havre collectivement qui est très intéressant, changé, pas transformé totalement, mais changé, beaucoup plus rigoureux. Et ça a payé contre Nice, ça n'a pas payé contre Lens avec un manque de réussite offensif. Et pour avoir vu deux fois, du coup, parce que j'ai re-regardé le match contre Strasbourg hier, on a une prestation qui est très très intéressante en première période. Et on a une sorte de restructuration aussi du côté strasbourgeois qui a fait du mal au Havre. Et au final, ça se joue sur un détail, sur une faute, sur un pied. Comme disait à la fin du match, les Havre de notre côté, cette fois c'est pour eux, ça a été de leur côté... l'année dernière pour un maintien miraculeux. C'est frustrant, mais c'est encourageant pour la suite de la saison, oui.
Frustrant, mais encourageant, c'est aussi votre avis, Mathieu?
En tout cas, c'est intéressant. Voilà ce qu'on a vu. Parce qu'il faut quand même rappeler que Strasbourg, on va dire, c'est minima top 5 Ligue 1 que ça vit cette saison. C'est quand même un gros poisson. C'est censé, en tout cas, être un gros poisson de notre championnat. Alors que le Havre ambitionne forcément le maintien. Donc, quand vous êtes capable de rivaliser, sur la première période, de dominer. Et voilà, après, forcément, la deuxième période, elle a été plus compliquée. Mais j'ai trouvé que le Havre avait aussi du répondant. Alors, ça demandait d'autres qualités. Mais ils ont aussi montré qu'ils pouvaient aussi résister. Hein, parce que, il y a un poteau en tout début de seconde période. Mais sinon, il n'y a pas 50 occasions de la part de Strasbourg. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait du répondant. Et effectivement, ça s'inscrit. Maintenant, il reste le plus dur, c'est de matérialiser ses bonnes intentions en but.
On a entendu à Didier Digard en conférence de presse dire aussi qu'il aurait voulu voir des joueurs plus tueurs.
Ouais, moi je partage complètement l'avis. Je trouve que le Havre peut avoir des regrets, et notamment peut-être sur la première période, qu'ils ont vraiment montré un très bon visage, je trouve, dans cette première période. C'est là où ils auraient dû, à mon sens, capitaliser et essayer de marquer. Malheureusement, quand on cadre un seul tir dans cette rencontre, c'est compliqué.
Il n'y a pas eu ces deux cases, par contre. Il y a eu la tête de Yacine Keshta d'entrée. Avec la parade du gardien strasbourgeois. Mais après, ça s'est pas matérialisé en occasion. Et c'est là que faut, ce que disait un petit peu Didier Ligard, c'est qu'il faut peut-être un peu plus de spontanéité, de, de pas chercher le geste parfait, le tir parfait, et mettre plus de ballons, je pense, dans la surface pour que ça aboutisse, même à des buts de raccro. Je crois qu'il a employé cette expression-là en compte d'après match. Et c'est vrai que un but de raccro, ça compte quand même.
Le moindre centimètre, il faut le prendre. C'est ce qu'a dit aussi Didier Digard, Josué.
Oui, le moindre centimètre, et je vais enchaîner dans ces déclarations. L'idée, c'est pas de faire que du beau non plus, parce qu'on se maintient pas, entre guillemets, qu'avec du beau. Après, je pense qu'il faut relativiser sur le... On viendra plus tard sur l'ensemble du début de saison, mais il faut relativiser. Strasbourg, c'est, entre guillemets, un autre championnat. C'est des ambitions tout autres. C'est 130 millions posés sur le mercato. Ils sortent aussi de trois matchs. C'est Nice, Lens et Monaco. C'est, je pense, aussi un autre championnat. Et encore que Nice, il y avait pour moi vraiment un monde d'écart collectivement. Alors c'est peut-être que la machine niçoise n'est pas encore lancée. Encore une fois, quand je vois le rendement collectif des 45 premières minutes du Havre à la Méno, sur des séquences collectives, je pense en une à la 15e minute à une ressortie de balle, mais qui est, enfin voilà, c'est des choses qui n'ont même pas été aperçues l'année dernière. Et il y a quelque chose aussi, moi, qui fait écho, c'est un Didier Digard qui est beaucoup plus actif sur son banc. Ils sont en train de progresser, en fait, un peu tous ensemble. On parle souvent d'ADN famille, d'ADN club au Havre. Je pense que Didier Digard aussi, de son côté, a fait son autocritique sur la période estivale. On lui a peut-être reproché par moment l'année dernière de subir un peu les rencontres, ou en tout cas d'assister à ces rencontres en tant que spectateur. Là, j'ai jamais vu quasiment un entraîneur aussi. Enfin, je crois qu'à un moment donné, les commentateurs du diffuseur disent, ils placent ses joueurs comme si c'était la PlayStation, quoi. Il les a pas lâchés. Abdoulaye Touré s'est fait reprendre, je pense, 77 fois dans le match, ouais, sur son positionnement, etc. Mais c'est intéressant aussi parce que ça amène cette rigueur collective, ça amène ce placement-là. Honnêtement, pendant alors oui, il y a eu des ajustements. On parlait des ajustements de Strasbourg en seconde période, mais Strasbourg n'a pas pu produire son football, en fait. Globalement, n'a pas pu produire son football. Ça se joue encore une fois sur un penalty, sur un pied de Nego qui est voilà, où Panicelli aussi joue très très bien le coup. Godot joue très bien le coup, pardon. Et Panicelli d'ailleurs a posé énormément de problèmes. Je trouve que c'est pareil, c'est un très gros prospect, ce joueur-là. Mais voilà, je pense qu'il va falloir aussi, faut pas oublier que le Havre, c'est 11 recrues cet été. Il va falloir aussi trouver les bonnes combinaisons, les bonnes coordinations au milieu de terrain, par exemple. J'ai trouvé ça un peu moins fluide, malgré la bonne prestation de Havre. J'ai trouvé ça moins fluide, par exemple, qu'avec un Seco. Donc, va falloir aussi, du côté de Digard, d'essayer des trios. Alors, je sais qu'on n'a pas beaucoup le temps en Ligue 1, mais faut quand même essayer, faut quand même voir la plus belle recette à l'œuvre.
On n'a pas rappelé les chiffres, hein, 54% de possession à la fin de la première période pour le Havre, 51% sur la totalité du match, donc effectivement des Havrais qui ont dominé au moins dans les chiffres. Mathieu, vous aviez un petit coup de gueule malgré tout sur ce match qui ne concerne pas spécifiquement les Havrais, hein, plutôt l'arbitrage et la façon de, on va dire, le déroulé du match.
Ouais, je sais que ça a interpellé pas mal de supporters sur les réseaux sociaux et à l'instant T, ça m'a marqué. Et bon, moi, je parle rarement d'arbitrage parce que bon, là, par exemple, il y a un penalty. Donc, est-ce que le Strasbourgeois a exagéré la faute, pas exagéré? Bon,
il voilà. La joue bien en tout cas.
Du côté de qu'on se trouve, forcément, on a une vision différente. Mais sur le temps additionnel, ça reste des maths. Donc, c'est assez simple. Donc, il y a 6 minutes qui sont annoncées sur la seconde période, sachant que c'est annoncé avant que le penalty soit sifflé, qui est sifflé autour de 88-45. Donc, ça veut dire déjà, et ça, le jeu reprend une fois que le penalty est tiré à 92-20. Donc, vous avez déjà 3 minutes dans le sac. Derrière, le Strasbourgeois qui s'est expulsé là pour leur bêtise de coup franc, voilà. Mais j'ai regardé qu'il y avait quasiment, sur les 6 minutes de temps additionnel donné, il y a 4 minutes où il se passe rien. Il se passe rien. Et finalement, l'arbitre, il siffle à 6:55. Alors, je sais qu'il y avait eu ce débat-là. Alors, je crois que dans leur dernière Coupe du Monde, je crois, où beaucoup de gens s'étaient offusqués qu'on voit des 9, 10, 13 minutes d'arrêt de jeu. Mais au moins, ça correspond aux arrêts de jeu réels. Parce que là, sur un match qui se joue à 1-0, où les deux équipes sont extrêmement proches l'une de l'autre, 3 minutes de plus ou 3 minutes de moins, c'est potentiellement une occasion. C'est potentiellement une balle d'égalisation. Alors, je dis pas ça contre l'arbitre de la rencontre, hein, c'est pas du tout, on voit ça dans plein de matchs, et des fois, ça sera peut-être en faveur du HAC, mais ça, c'est vrai que c'est des évolutions d'arbitrage que je comprends pas qui se produisent pas, parce que c'est pas une question d'interprétation, de VAR, c'est juste, arrête le temps quand il y a un arrêt de jeu long, comme le penalty, comme le carton rouge, et fais-le reprendre vraiment effectivement quand tu siffles, et du coup, tu verras que tu gagneras 3-4 minutes de jeu, et le but, c'est que bah, le jeu se dispute dans son intégralité.
Un avis sur ce petit coup de gueule, Luc?
Ouais, non, c'est très juste. C'est très juste, effectivement. ça prive le hack potentiellement d'une dernière opportunité pour revenir sur le film. Donc, ouais, non, je partage complètement l'avis.
Pour compléter ce que tu dis, Mathieu, je l'ai regardé parce que j'ai vu aussi que ça avait beaucoup fait réagir. Il y a 58 secondes de temps de jeu effectif sur les 6 minutes accordées.
Et voilà, c'est incroyable. Et pareil, il y a un truc de fou. Enfin, je t'ai terminé là-dessus. Du coup, je regardais ça ce matin en préparant l'émission. Et à un moment, tu sais pas pourquoi le chrono du diffuseur se bloque à 6:26, ce qui fait que j'ai dû refaire la séquence avec mon propre chrono pour bien voir le temps de jeu. Bon, voilà, il y a des trucs, voilà. Ouais. Mais c'est des trucs, voilà, c'est peut-être un détail, mais encore une fois, les matchs se jouent sur des détails et le maintien, on l'a bien vu la saison dernière. Ouais. Ça peut jouer à pas grand chose, donc voilà.
Ça peut jouer même à la dernière minute.
Exactement. Diffuseur qui, soit dit en passant, a atteint ses objectifs de fin de saison. Je crois avoir entendu ça ce matin en termes de nombre d'abonnés.
Ouais, ils ont communiqué autour qu'ils avaient dépassé la barre du million. Après, je sais pas comment c'est comptabilisé exactement. Je me suis pas intéressé au dossier parce qu'en fonction de sur quelle plateforme vous êtes, en fait, des fois, vous pouvez la voir la chaîne sans que vous la regardiez vraiment, je pense.
Ah oui.
Alors, je me suis pas vraiment intéressé bah oui, parce que ça fait partie de bouquets. Je crois qu'il y a des contrats qui ont été signés avec différents opérateurs. Et des fois, en fait, la chaîne, vous l'avez, mais vous le savez même pas, en fait. Mais bon, c'est
ça a quand même bien marché. La petite promo de l'été, elle a bien fonctionné.
La com a bien fonctionné. Et le tarif, je crois, surtout, a bien fonctionné.
Je crois que ouais, c'est surtout le tarif qui joue beaucoup quand même.
Et quand vous aviez moins de 25 ans, c'est encore mieux.
Mais ouais, bon, ça voilà. Fait longtemps, moi, que j'ai plus 25 ans, malheureusement, pour moi.
Bon, à l'issue de ce match, donc, je le disais, 3 points récoltés sur 12 possibles, 3 défaites, 1 victoire, mais des prestations, on le disait, convaincantes face à Lens et Strasbourg, malgré le score défavorable, et des Havrais qui sont donc 13e de Ligue 1. Et on peut dire que c'est une équipe qui engendre la confiance dès le début, du côté des supporters, du côté des commentateurs. Beau visage pour cette équipe du Havre en comparaison avec l'année dernière, Luc?
Ouais, moi c'est surtout, on en parlait d'ailleurs un petit peu en début d'émission, c'est peut-être plus sur l'aspect collectif où on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage dans cette équipe havraise, plus que l'an dernier, effectivement, où l'an dernier on avait déjà des matchs très très compliqués et on voyait même parfois pas forcément d'issue positive longtemps, en tout cas dans la première partie de saison. Donc là, moi je trouve que oui, collectivement, il y a plus de maîtrise, il y a plus d'idées, il y a plus de... Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage en tout cas dans cette équipe havraise dans ces 4 premiers matchs.
Et puis la volonté aussi de prendre le contrôle du jeu, ce qu'on n'a pas forcément vu l'année dernière, c'est d'accepter, même en étant le Havre, de dire bah aujourd'hui c'est... Didier Digard l'a dit plusieurs fois à ses joueurs, il a dit c'est à nous de jouer, c'est à nous de prendre le jeu, c'est à nous de faire les choses, et pas forcément de se mettre dans un système hybride, on va dire, de 3-5-2 qui se transforme très régulièrement en 5-3-2 où bah t'attends, t'as certes une sorte de solidité défensive qui se dégage, mais tu vas en avoir que 2 ou 3 par match. Là au moins il y a plusieurs fois, enfin par exemple la logique du pressing haut contre Strasbourg, je crois que sur 80% des actions défensives, il y avait 6 joueurs à vrai dans le camp strasbourgeois, et ça venait chercher haut. On a vu plusieurs fois Kechtak était à la façon d'un Ousmane Dembélé en finale de Ligue des Champions, à se mettre sur la ligne, et dès que c'était parti, il partait en sprint sur Penders. Ben voilà, c'est une philosophie de jeu beaucoup plus agressive, beaucoup plus offensive, où le but c'est de récupérer le ballon le plus rapidement possible et de le faire vivre. Après, la limite aujourd'hui, c'est on a le ballon, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on reste dans quelque chose d'assez stérile, ou est-ce qu'on va sur du jeu plus direct et aller chercher ce fameux but de raccro ou cette occasion en plus, quoi.
Mathieu, il y a plus de maturité dans ce groupe par rapport à la saison dernière. On va venir évidemment sur le mercato estival dans un instant, mais...
Il y a peut-être plus de confiance. Encore une fois, je crois que Josué disait aussi, peut-être que Didier Digard aussi, il a appris des choses de la saison dernière dans le jeu, dans la façon de faire jouer aussi ses hommes. Voilà, il faisait aussi référence, Josué, c'est vrai que la saison dernière, on a vu beaucoup... Alors, même si les coachs disent c'est l'animation qui compte, pas le schéma, mais on a souvent vu un système à 3 centraux qui a été abandonné à la trêve hivernale, avec notamment l'apport de Junior Manga qui est depuis reparti. Mais on a gardé la base un peu en 4-3-3 avec du coup une sentinelle devant la défense, 2 milieux de terrain. On a l'impression que les joueurs exploitent mieux c'est leur qualité dans ces postes-là. Et je pense qu'il y a aussi peut-être de la confiance qui a été acquise dans la deuxième partie de saison, même s'il y a eu beaucoup de changements, on y reviendra. Mais voilà, et après Lens, même s'il y a eu des fêtes, et il faut le dire, c'est presque un hold-up de la part du Racing Club de Lens.
Ce n'est pas presque.
Voilà. tout le monde, enfin les confrères, on parlait en salle de presse, ou même je disais en préparant l'émission sur le parking, tout le monde se disait, Qu'est-ce qu'on a vu un bon match du Havre? Moi, j'avais rarement vu, et même sur la première saison avec Lucas Esner, et pourtant, Dieu sait qu'il y a eu des très bons matchs, je me rappelle de celui-là contre Lyon, forcément, mais j'avais rarement vu une équipe havraise en Ligue 1 dominer autant son adversaire que face à Lens, alors même si ça n'avait pas souri au tableau d'affichage. Donc non, il y a vraiment une identité qui se dégage. Et maintenant, il faut que ça rapporte des points.
Et même de se créer autant d'occasions hein, sur ce match-là, ça a été... moi, j'ai rarement vu ça, en tout cas, sur les 2-3 dernières saisons. En tout cas. Hein.
Et tout le monde, moi, je sais qu'on fait du covoiturage pour venir, on est 3-4 dans la voiture, et tout le monde disait, mais qu'est-ce que... Enfin, t'avais envie de revenir, en fait, c'est ça. Tu te disais, mais vivement le prochain match qu'on voit de nouveau ça. Et ce qu'on a vu contre Nice, d'ailleurs, et qui, cela, s'est matérialisé en points, et qu'on voit, et qu'on a vu en partie à Strasbourg, ce qui est encore plus fort, parce qu'encore une fois, Strasbourg, c'est vraiment, je pense, censé être une bonne équipe de Ligue 1. Donc, non, c'est vraiment intéressant. Faut juste que, vraiment, faut franchir le pas de cette qualité de jeu, ça se convertisse en points.
Est-ce que ça peut être lié aussi à la physionomie pure du championnat de Ligue 1, avec des écuries qui jouaient la Ligue des Champions il y a 2 ans, parler de Lens. Ouais.
Sais pas ce qu'en pense Josué. C'est vrai que moi, le regard que, enfin, c'est vrai que quand ça m'avait marqué sur la première journée où j'ai regardé pas mal de matchs à la télé, donc il y a le petit synthé avec la composition des équipes, et donc c'est vrai qu'on a eu Lens et Nice au programme du A, c'est que je me suis dit, waouh, en 2 ans, ces équipes-là, quand même, elles ont perdu cher en termes d'effectifs.
Oui, complètement.
Et j'ai pas l'impression que le Havre se soit si affaibli que ça et que l'écart avec peut-être s'est réduit. Je sais pas, Josué, ce que t'en penses.
Après, on a une structure globale de championnat où il y a, entre guillemets, des équipes qui souffrent, notamment liées aux droits télé, et ça n'a pas forcément changé. Par exemple, pour le Havre, pour Montpellier maintenant qui est descendu, mais pour des, je pense à d'autres écuries qui sont globalement prédestinées à se battre pour le maintien. Cette chute libre, on va dire, des droits télé, des rentrées d'argent, etc. Elle est en train de peser fortement pour des clubs qui étaient historiquement entre la 7e et la 12e place. Et ceux qui n'ont pas fait cette transition-là se retrouvent aujourd'hui potentiellement à être des candidats directs à, pas forcément dire une lutte pour le maintien, mais regardons la trajectoire d'un Lens qui a encore quelques années de ça, et elles sont pas si vieilles que ça, était deuxième du championnat de France, a terminé à un point derrière le PSG, avec des prospects qui lâchaient 40-50 millions et ça partait... en première ligue. Aujourd'hui, la qualité intrinsèque de même si t'as un bon coach derrière, etc., la qualité intrinsèque de l'effectif de Lens a fortement, fortement chuté. On n'a plus la même profondeur de banc, etc. On n'est plus sur les mêmes équipes. Nice, c'est pareil. Dans la façon de recruter aujourd'hui, on va plutôt aller tenter des paris, des petits jeunes, voir si ça peut monter en gamme dans un championnat, mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne s'acclimate pas du tout. Donc on se retrouve avec un championnat qui est encore divisé, parce qu'on a une sorte de locomotive forte. J'enlève le PSG qui n'est plus une locomotive, c'est un Airbus A380. Voilà. Mais derrière, on a des Marseille, Monaco, Strasbourg, même Lyon aujourd'hui hein, qui fait un bon début de championnat. Moi, j'attends de voir. Lyon, ok, très haut pour l'instant, réussit un début de saison parfait, pas de problème. J'attends de voir sur la durée, Lyon, parce que Souk, Karabek, ces joueurs-là, moi j'ai peu de certitudes entre guillemets encore aujourd'hui. Donc il y a deux championnats, et je pense que le Havre, dans sa qualité, quand je dis la qualité, c'est au-delà du financier, parce que finalement Mathieu Bonnemer et ses équipes, ils fonctionnent avec trois cacahuètes depuis 3 ans, et ça va continuer comme ça. Il y a eu un rachat.
Une cacahuète, même cette année, je crois.
Ou une cacahuète, mais même le rachat a laissé entrevoir beaucoup d'espoir, et j'ai envie de dire un peu trop. Certains s'attendaient à un recrutement massif, à la fin des encadrements. Non, on est sur quelque chose qui est simplement un épongement de dette, et encore, c'est pas totalement réglé, avec un encadrement, et on est encore sur la phase de stabiliser un club. Qui était quand même, il y a quelques mois encore, dans une situation très délicate, pour pas dire compromise. Ils ont au moins eu, entre guillemets, la chance de pas mettre le rideau, comme ça arrivait à plusieurs clubs ces dernières saisons, plusieurs clubs historiques. Maintenant, voilà, il y a deux championnats, il y a des Lorient, il y a des Metz, il y a des Nantes, il y a des Le Havre. Je pense que la chance, entre guillemets, aujourd'hui du Havre aussi, c'est d'avoir gardé cette qualité, cette mentalité dans le vestiaire, d'être un club très uni qui a fait la force du Havre ces dernières saisons, et de pas perdre en qualité, avec une direction sportive qui, pour moi en tout cas, réalise des choses assez extraordinaires en termes d'intelligence de recrutement. Des joueurs qui sont capables de performer à Océane et qui étaient, qui était en perte de vitesse dans d'autres clubs, quoi.
On parlait de Metz, de Lorient. On n'a pas précisé qu'au classement, il y a d'autres équipes qui sont à 3 points avec le Havre. Il y a Nantes, Auxerre et le FC Lorient. Quel prochain adversaire du HAC? Ça veut dire que là, il faut faire un petit break, un petit Mathieu.
Bah, ça fait partie des rencontres sur le papier. Je dis bien sur le papier que forcément, c'est plus intéressant de repartir avec les 3 points que Fanny. Ouais. Voilà, après, c'est toujours
à domicile.
C'est toujours la vérité d'un match. On sait bien que qui aurait mis une cacahuète pour reprendre. Une expression qu'on vient d'employer sur le fait que le HAC a tapé Strasbourg mi-mai, le Strasbourg qui pouvait viser la Ligue des Champions, en tout cas la phase de barrage. Donc voilà, les matchs qui sont jamais écrits d'avance, mais voilà, on a envie de savoir si le HAC peut continuer à produire cette qualité de football et surtout s'ils peuvent la bonifier en termes de points. C'est ça les enjeux des 2-3 prochaines journées jusqu'à la prochaine trêve.
Notamment des deux prochains matchs où c'est des adversaires directs pour le maintien. Et on sait que les batailles face à ces équipes-là sont déterminantes pour le maintien.
Avec ouais, Lorient, Lorient et Metz, vas-y Josué.
Juste pour ajouter, j'attends de voir aussi comment se comporte le Havre face à des clubs comme ça où forcément la maîtrise qu'on a vue du Havre, déjà face à des clubs comme Strasbourg, comme Monaco, enfin, moins Monaco, mais en tout cas Lens-Nice. Voilà, c'est... Le contre-pressing, etc. Il n'y aura pas forcément besoin de ça face à des écuries telles que Lorient, telles que Metz, etc. Mais justement, dans l'utilisation du ballon et en se projetant un peu et en, on va dire, en pariant que le Havre va avoir le ballon dans ces matchs-là, quelle productivité derrière? Est-ce que vraiment ils vont réussir à transformer l'essai? Ou alors c'est aussi un club aujourd'hui qui est, on va dire, un peu façonné pour défier justement des... entre guillemets, des plus grosses écuries qu'eux, mais se sentir bien dans ce challenge-là, de cette confrontation-là, et dans un match où, clairement, ils ont l'emprise, est-ce qu'ils vont réussir à passer ce gap-là pour vraiment le traduire en termes de buts et de points, du coup? Ça va être intéressant de le constater ou non contre Lorient, par exemple.
Luc.
Comme ça va être intéressant, à mon avis, de voir un peu les essais sur le front de l'attaque aussi, parce que pour le moment, ouais. On est un peu avec les mêmes joueurs sur le front de l'attaque, notamment Samata devant. Mais bon, on a quand même Pizarro qui est arrivé en prêt de l'Udinese. Moi, j'ai bien hâte de voir justement ce que ça peut donner, une association peut-être avec d'autres joueurs offensifs.
Ouais, ouais.
Et bien justement, on va parler peut-être de ce mercato un peu plus en détail, le mercato du HAC. Dans le débrief 100%, donc gros plan sur ce mercato estival, 11 recrues, 15 départs, en comptant les prêts et les résiliations de contrats, comme récemment Walid El Adjam qui est parti du côté des Girondins de Bordeaux. Ça c'est pour le bilan côté chiffres, donc pour le Havre. Le HAC qui est toujours encadré, on le disait, par la DNCG, le gendarme financier du foot, qui ne peut donc pas verser d'indemnité de transfert. Ce sont des hommes libres de tout contrat ou en prêt qui ont rejoint le groupe de Didier Digard cet été. Alors quelle est la recette pour les convaincre de rejoindre les Ciel et Marine, malgré des salaires sans doute parmi les plus faibles du championnat? Mathieu, vous avez posé la question il y a quelques jours pour footnormand.fr à Mathieu Bodmer, le directeur sportif. On va l'écouter, entendre sa réponse. Il évoque plus précisément le cas de l'attaquant Ali Samata, tout simplement le plus grand joueur de l'histoire de son pays, la Tanzanie, selon les mots de Bodmer.
Le fait de jouer en Ligue 1, le discours du coach, certainement un peu notre discours aussi, mais voilà, une relation peut-être aussi avec la France qu'il avait envie de découvrir. On a un pays connu. On est une ville qui est quand même connue pour différentes choses. Ouais. Parlons de la région parisienne, parce que tous les étrangers connaissent la Tour Eiffel. Et puis le fait que nous, on soit une ville calme, paisible, quand même en bord de mer. Il y a un cadre qui est sympa pour pouvoir jouer au foot tranquillement, bien travailler, amener ses enfants à l'école, etc.
Josué, qu'est-ce que vous inspire cette déclaration de Mathieu Bonnemer? Est-ce que la France et la Normandie attirent?
en étant normand, je prêche pour ma paroisse, mais oui, ça attire. Et je crois même que Mathieu a dit, on m'a peut-être pris pour un fou, mais oui, le Havre, ça attire. Mais c'est vraiment ça. Au-delà de la ville, c'est pour pas trahir de secret et connaître Mathieu Bonnemer. C'est quelqu'un avec qui on discute football et ça devient très très vite passionnant. Alors là, sur des sphères journalistiques, mais je pense que pour un joueur, de discuter avec un directeur sportif qui a une telle passion du football et qui peut aussi, dans les profils qu'on voit, parce qu'il y a différents profils, on parle d'Ali Samata qui est 70 sélections avec la Tanzanie, c'est quelque chose. Mais on a aussi des Mambimbi, on a aussi des Pizarro, on a aussi des Namli. On a des Reda Kadra qui sortent de blessures. Donc c'est considérer le profil qu'on est en train de cibler et qu'est-ce qu'on va lui apporter, parce que finalement ça c'est un peu pour tout le monde pareil. C'est si tu changes de boîte, qu'est-ce que tu vas avoir dans ton nouvel environnement de travail. Et je pense que là où ils sont très forts, je parle de Mathieu Bonnemer, mais ses équipes au complète, c'est de projeter une carrière et de dire voilà, aujourd'hui t'en es à t'es à ce point A de ta carrière et nous notre but c'est de t'emmener à ce point B et puis aussi de découvrir ce qui est réputé comme un club ADN famille et ce qui se confirme parce que finalement les joueurs qui viennent petit à petit que j'ai en interview par exemple derrière le confirment très bien, c'est des ambiances de vestiaire qu'ils n'ont soit très peu connues soit jamais connues auparavant. Dans le soutien, dans l'esprit de sacrifice, dans l'entraide, dans tout ça. C'est ce qui a fait la force du Havre ces dernières années. Je pense en grande partie pourquoi ils sont encore dans l'élite du football. Et voilà, donc le discours à la fois, la ville, je sais pas, ça c'est chacun fera son jugement sur la ville, ce qu'elle peut apporter en termes de confort, de bien-être, etc. Il y a eu des recrutements par le passé, je pense, où c'était moins ça. Je pense à un Dalair Kouzaïev, finalement, qui, je pense, n'a jamais vraiment réussi à s'acclimater à ça, mais en même temps, il arrivait de Saint-Pétersbourg, c'est autre chose.
Trop chaud, ouais.
C'est clairement des choses différentes. Là encore, moi, je pense que la multiplication entre le côté historique d'un club, mais surtout le discours passionné, passionnel, à la fois d'un entraîneur et d'une cellule sportive, oui, peut convaincre et preuve en est, hein, c'est que 11 arrivés avec 0 euro, on a quand même convaincu 11 hommes de venir avec un salaire très très restreint, parce qu'il n'y a aucune folie possible sur ce plan-là aussi. Donc c'est même pas un effort financier qui est fait là-dessus. L'effort financier, au contraire, il est plutôt fait de la part des joueurs quand ils arrivent au Havre.
Ça c'est miraculeux, est-ce que c'est le bon mercato estival en France en Ligue 1?
Moi je pense pas que ça soit miraculeux, un miracle pour moi il arrive qu'une fois. Je pense aussi que c'est une méthode de travail et c'est une manière de faire et que les joueurs sont ciblés aussi pour une raison. Je pense à un Godson Kiremé qui sortait de Caen et qui était dans un univers collectif et de club qui était très très compliqué. Et qui dépend pas que de Godson, hein. Je pense à Alexandre Mendy qui est à Montpellier aujourd'hui, qui est meilleur buteur de l'histoire du club. Bah, il a vécu une saison dernière beaucoup plus difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, il a toutes les qualités, par exemple, pour aider un club de bas de tableau en Ligue 1. Aujourd'hui, il est à Montpellier, très bien pour lui. Mais c'est aussi de relancer des joueurs, de les mettre dans un... Alors, pour l'instant, ça se traduit pas entièrement, parce que je crois que Godson, il est encore juste physiquement, de ce que j'ai compris. Il était hors du groupe, je crois, ce week-end. Donc va falloir voir comment ça prend aussi de ce côté-là, mais par le passé, en tout cas sur les 2-3 dernières saisons, on a vu des joueurs qui ont réussi à donner le plein potentiel, à montrer la pleine valeur de ce qu'ils sont capables de faire. Et je pense à un Reda Kadra, où c'est un vrai pari sur le papier, mais c'est un joueur aussi qui est bourré de qualité, qui est très polyvalent sur le front de l'attaque, et dans un climat de club qui fait confiance aux joueurs, qui fait confiance à une évolution. Ça peut être que porteur. Donc je parlerai pas de miracle. Je pense vraiment que le Havre aujourd'hui est doté d'une direction sportive qui est sur le podium de Ligue 1. Et je pèse mes mots.
Est-ce que Mathieu Bonnemer est le dieu des directeurs sportifs, puisqu'on je comprends, continue sur la lancée et la métaphore, Mathieu ou Luc?
Non, mais de toute façon, l'atout numéro un du hack sur le plan sportif aujourd'hui, c'est Mathieu Bonnemer et ses équipes. Que ce soit Luc ou moi, je sais pas pour José, mais on a suivi le club précédemment en Ligue 2. C'était un club qui était avant, et je veux pas manquer de respect aux hommes qui étaient en place, hein, qui faisaient ce qu'ils pouvaient, mais qui était en train un peu de se morfondre en Ligue 2, et que vous êtes passé en l'espace de 3 saisons, vous êtes monté, vous avez pris le titre de champion de Ligue 2, un peu contre toute attente quand même, hein, au coup d'envoi du championnat, hein, personne n'aurait mis une pièce dessus. Et là, vous enchaînez une troisième saison consécutive en Ligue 1. Et dans la première partie de l'émission, on a bien souligné qu'ils avaient tous les atouts pour peut-être en faire une quatrième. Donc c'est lié forcément, c'est lié à la direction sportive et surtout. Je crois à l'unité qui se dégage entre les différentes composantes du club. Je pense aussi que les joueurs, ils savent où ils mettent les pieds au Havre. Ils savent que c'est pas parce qu'il y a un petit coup de vent que l'entraîneur, il va sauter, que voilà, enfin, il y aura des déclarations tapageuses. Il y a un climat de travail, un climat de sérénité.
Une stabilité.
Une stabilité, effectivement. Et voilà, vous savez dans quoi vous vous engagez. On parlait tout à l'heure de Didier, qui replaçait ses joueurs. Pour la première fois cet été, entre guillemets, j'ai eu la chance d'assister à un entraînement de Didier Ligard lors d'un stage. Je peux vous dire qu'il est pas tendre avec les joueurs aux entraînements. Je me suis dit, oh là, ils rigolent pas, ils doivent pas rigoler tous les jours, les gars, quand même. Il est extrêmement exigeant, extrêmement dur. Mais forcément, si vous voulez vous imposer en Ligue 1 et peut-être même aller voir plus haut, bah, il faut passer par cette exigence-là.
On parle de l'état d'esprit du club, de l'ambiance de club et de vestiaire. Un petit mot sur la Ligue 1 aussi, parce qu'on a vu des joueurs comme Ayoumou Seko, par exemple, qui a clairement dit voilà, que c'était l'opportunité de venir jouer en France. Il y a, je pense, au-delà du Havre, à ces champions du monde 2018 qui reviennent tous dans le championnat. Ça veut dire que la Ligue 1 attire ?
Elle reste toujours attractive, même si n'en déplaise à certains de ses détracteurs, mais moi je pense qu'elle reste toujours attractive. Et puis surtout, elle offre des garanties de temps de jeu. Je pense à certains joueurs qui peut-être sont soit en bout de course dans d'autres clubs à l'étranger ou qui ont besoin de relever un nouveau challenge.
Josué, la comparaison entre Ayoumou et les champions du monde 2018, je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas un petit mot sur ce championnat.
Elle l'est parce qu'elle apporte. C'est pas anodin non plus que c'est pas anodin. Ça me fait penser à un directeur sportif qui disait ça il y a quelques années, Monsieur Chéroux. Non, c'est pas anodin dans le sens où on est aussi à N-1 d'une Coupe du Monde, qu'il y ait autant de champions du monde qui reviennent avec. Je vais enlever Giroud de la discussion. Parce qu'il a formulé lui-même, même s'il a, entre guillemets, réouvert un tout petit peu la porte. Je pense pas que ce soit réouvert la porte, mais il a dit si jamais on a besoin de moi, je suis toujours là. Mais je pense que c'est plus par esprit de patriotisme et d'amour pour le maillot bleu. Mais c'est pas anodin que des Thauvin, que des joueurs comme ça reviennent. Ça donne une visibilité. Tu reviens aussi dans un championnat que tu connais parfaitement. Donc, en termes d'acclimatation, etc., c'est beaucoup plus facile. Et je pense à des internationaux comme Ayoumou Seko, c'est un nouveau challenge avec, qu'on le veuille ou non, un championnat qui est hyper rigoureux tactiquement, qui est peut-être moins technique que la Liga, etc., mais qui reste dans le top 5, je pense, des championnats les plus intéressants à suivre et les plus intéressants à regarder aujourd'hui en Europe.
Un petit mot sur, je reviens sur le mercato havrais. Si on devait définir le plus beau coup, le plus gros coup de Mathieu Bonnemer cet été, Josué.
Bah, c'est un peu faussé maintenant parce qu'il y a quelques recrues. Je crois qu'il y a 4 recrues maximum qui ont été alignées depuis le début de la saison. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce qu'il y a 11 arrivées, mais j'ai regardé. Je crois que c'est 4 recrues maximum dans l'11 de départ depuis le début de la saison. 3 à Strasbourg. Ça dépend en fait où on place le curseur. Moi, je pense par exemple qu'un Moridio dans l'esprit du vestiaire, avec la connexion avec Nicolas Duchesse, avec aussi Mpassi qui l'a côtoyé par le passé, formé ensemble, etc. Ça donne aussi, ça conforte aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté esprit de famille, connexion, que ce soit avec la direction, mais aussi avec les joueurs. Ça crée aussi un vent nouveau dans le vestiaire. Et c'est quand même peu commun de sortir tes deux gardiens et d'en prendre deux nouveaux, mais les deux nouveaux qui ont été pris, c'est pas par hasard, c'est aussi des joueurs qui sont très expérimentés. Moridio a quand même fait des saisons assez exceptionnelles en Ligue 1, notamment quand il était à Clermont. Donc moi je pense que pour l'esprit de vestiaire par exemple, un Moridio c'est un très joli coup. Après j'attends de voir hein, par exemple un Seko que j'avais regardé un peu la saison passée. Moi, pour moi, c'est un joueur qui est balle au pied, qui est très très fort, qui sait jouer des deux pieds, qui est très polyvalent, qui peut revenir en charnière centrale, mais qui peut évoluer en 6 aussi. Le poste de sentinelle, c'est un poste clé dans la philosophie de jeu de Didier Digard. Il l'avait dit l'hiver dernier quand Mwanga est arrivé. Il a dit, voilà, on m'a beaucoup critiqué sur le début de saison, mais en même temps, à ma direction sportive, je demandais ce profil-là, c'est celui qui me manquait. Et c'est celui aussi qui ne lui permettait pas de changer son dispositif, d'enlever ses 3 centraux. Donc ça, c'est important aussi à voir comment ça va se passer dans la concurrence avec Abdoulaye Touré. Pour moi, le plus gros coup, c'est Samata. C'est clairement un... Alors certes, pour l'instant, ça ne se traduit pas en but, mais on l'a vu à Strasbourg et on l'a vu avant. C'est un joueur qui pèse énormément sur les défenses, qui va faire énormément du bien dans le jeu sans ballon. C'est un très, très gros coup. C'est 70 sélections, que ce soit la Tanzanie ou n'importe quoi, c'est énorme.
Bon, c'est un peu une réponse de Normand, tout ça, quand même. Trois noms, mais le gros coup,
non, mais
je retiens Ali Samata.
Quand même, Samata, on a un spécialiste mercato avec nous. Je crois que j'ai vu qu'il a été transféré à une époque en Première Ligue, et il y a quelques années, hein, donc les montants sont exponentiels, mais pour 12 ou 13 millions...
Plus que ça, Mathieu Bonnemer te disait 16 millions.
Mais peut-être que Mathieu, il a un petit côté marseillais. Non, enfin, toujours été une quinzaine de millions d'euros, donc c'est pas rien. C'est un joueur quand même qui a des références au niveau international. finale, même qui a disputé des coupes d'Europe. Donc effectivement, en tout cas sur le plan du jeu, voilà, s'il commence à mettre un ou deux buts, ça peut changer. Et après, vous avez toujours les petites trouvailles. Alors c'est que 4 journées. Donc, faut surtout pas s'emballer. Mais forcément, faut des doux courir. Ouais. C'est pour l'instant la révélation. C'est incroyable. C'est incroyable d'avoir un garçon qui ne joue, j'ai envie de dire, mais même pas à son poste, qui déploie autant de qualité, qui déploie autant de générosité. Et ça, mine de rien, il n'y a pas à dire. C'est parce que vous avez des gens à la tête qui connaissent le foot, qui regardent les matchs. Enfin, je sais même plus comment Mathieu, il regarde le monde de mecs qui regarde. À chaque fois que vous l'appelez, de toute façon, il vous dit, non, je suis en train de regarder un match. C'est un truc de fou.
C'est titanesque, hein, justement, le travail de fourmi là-dessus que fait, Mathieu Bonnemer et toutes ses équipes. Mais pour dénicher, justement, des joueurs comme ça, des joueurs même des Félix Mambini, hein, on s'interrogeait un peu de savoir ce qu'il pouvait apporter. Moi, je pense qu'il peut aussi apporter quelque chose sur un côté.
Ouais.
Donc voilà, et puis moi, j'attends aussi encore de voir certains joueurs qu'on n'a pas encore trop vus. Je pense à Thomas Delaine, mine de rien. Je pense qu'avec son expérience sur le côté gauche de la défense, il peut suppléer Zouaoui et il peut te faire du bien à certains moments. Et puis moi, j'attends surtout de voir Damien Pizarro.
On a compris. Luc, il est très, très hâte.
Je suis très, très hypé de voir.
Ouais, c'est ça.
Je pense qu'on est d'accord sur la bonne pioche. Voilà, il faut des Doucouré qui est un peu je ne sais pas si on faut parler de surprise, mais justement, quelle recrue, Josué, vous attendez de voir à l'œuvre, on va dire, au-delà de celle qu'on a déjà citée pour le gros coup.
Pizarro, forcément, ouais. pour l'inconnu, pour la jeunesse, pour le côté inattendu aussi de cette arrivée-là, d'aller chercher à l'Udinese. Colo-Colo, c'était un club aussi par le passé qui est assez exigeant, qui est très, très rigoureux, très physique, etc. Donc je pense que ça peut être un profil qui apporte. Après, à voir, parce que ça change aussi tout ton dispositif tactique. Si tu passes à deux attaquants, c'est pas la même chose. Comment tu combines ça? Est-ce que tu acceptes de mettre Samata sur le banc? Je sais pas à l'heure actuelle, parce que je trouve qu'il est... encore une fois très important dans le début de saison et dans le rendement collectif du Havre depuis le début de la saison. Moi, j'attends de voir Namli plus régulièrement, pour avoir parlé avec quelques Havrais depuis le début de la saison. Quand il est arrivé sur les premiers entraînements, il a pris le ballon, je pense à Keshta qui me l'a dit il y a pas longtemps, il a pris le ballon, il a fait 2-3 passements de jambes et Keshta a regardé tout le monde et a dit « Ah oui, c'est fort ça !» Donc j'attends de voir aussi, c'est pareil, c'est comment ces joueurs-là vont s'intégrer au dispositif, mais... des joueurs très techniques. Il y a un panel différent dans les 11 recrues. Il y a de l'expérience, il y a des paris pour moi, et il y a des joueurs aguerris, des Samata, des Delaine, etc., qui sont expérimentés, des Moridio qui peuvent apporter. C'est une jolie salade qui a été faite encore une fois.
Et juste du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup des points positifs. Donc le mercato, ça s'arrête jamais. C'est pas Josué qu'on va l'apprendre. Faudra quand même surveiller. J'ai envie de dire à N+1 ce qui va se passer dans les prochains mois, car il y a quand même eu peu de départs, peu de transferts en tout cas payants dans le sens des départs.
Peu de rentrée d'argent en tout cas.
Hormis le petit Aliou Thiaré dans les dernières heures. Oui, c'était même après la date française.
Je précise d'ailleurs, je te coupe, désolé. Aliou Thiaré n'a pas été transféré pour 1 million. Hein. C'est quelque chose qui a été dit et redit et relayé. Mais le transfert exact, c'est 1,5 million plus 900 000 euros de bonus plus 20% à la revente.
Eh oui, je l'avais noté. J'avais repris, je crois, ton poste ou dans ton article, effectivement. Ouais. Donc, Mathieu, le Bonnemer le soulignait quand on l'interrogeait, que c'était, un deal financier qu'on ne pouvait pas refuser pour le hack. Et donc, il faudra justement voir l'avenir, quand même, de d'autres garçons qui sont en fin de contrat dans un an et pas des moindres. Aruna Sanganté, Gauthier Lloris, Étienne Youté, Yacine Keshta, je vais citer que ces quatre-là.
Abdoulaye Touré,
effectivement, qui sont forcément aujourd'hui, à l'exception d'Étienne Youté qui est plus remplaçant pour le moment, mais des titulaires indiscutables et indiscutés dans le hack. Voilà, il y a forcément, il y a des discussions pour les faire prolonger. Ça va pas être évident à mon avis, mais il faut aussi penser. Alors, il y a l'instant T, et ce qui se passe pour le moment, c'est très très bien, mais il faut aussi penser au coup d'après à demain. Ouais. Et là, faudra voir, parce que si par malheur pour le HAC, vous vous retrouvez à perdre les 4 le même été, 4-5, là, ça va être dur. Donc, faut espérer que les pouvoirs de persuasion de Mathieu Bonnemer et des dirigeants à vrai fonctionnent aussi au moins sur un ou deux d'entre eux pour les faire prolonger, parce que vous pouvez pas vous permettre de voir partir 4-5 titulaires libres le même été comme ça. Je pense que ce sera difficile de s'en remettre.
Ça dépend aussi un peu d'un contexte, hein. C'est qu'aujourd'hui, au-delà du pouvoir de persuasion, c'est la capacité, les liquidités de chaque club qui viennent. Je pense par exemple à un Runa Sanglanté, alors qu'il y avait une porte de sortie au Danemark, si je dis pas de bêtises.
Ouais, à Mikkeland, du coup.
Ouais. Voilà, donc ça, c'est le refus du joueur et bon, ça peut s'entendre.
Ah oui, chaque joueur est libre de son avenir.
Mais après, pour sans dévoiler trop de coulisses, et je peux en dévoiler, en fait, ça m'importe peu. Les offres qui sont arrivées sur la table déjà cet été sont très, très, très peu conséquentes. Il n'y a quasiment rien eu. Et celles qui sont arrivées sont de l'ordre de la moquerie. Enfin, je vais employer des mots gentils, mais on peut pas laisser partir un joueur non plus pour 200 ou 300 000, quoi. C'est pas raisonnable, ça serait pas compris.
C'est des offres qui sont loin du compte, en tout cas loin des attentes fixées par le HAC en termes de rentrée financière.
Mais le HAC se trouve du coup à un carrefour, parce qu'avec des offres du coup qui ne sont pas satisfaisantes, mais la perspective de voir perdre quasiment la moitié de ton équipe titulaire dans un an. Alors je sais pas quelle sera la politique du propriétaire dans un an. Peut-être qu'on sera sur un changement de voilure et qu'il y aura une forte capacité d'investissement dans le marché des transferts. À l'instant T, c'est pas le cas, donc faut.
Ou la capacité de monter en gamme en termes de grille salariale pour retenir ses profits.
Exactement, pour retenir notamment des Gauthier Loris ou des Yacine Keshta, d'être en capacité de, au moins d'augmenter. Forcément, parce que quand tu prolonges en général, t'espères avoir un petit plus quand même.
Petite remise.
Et bon, enfin. Pendant la période de transfert, justement, on va voir comment vous travaillez, Josué, journaliste spécialisé. On va y revenir dans un instant.
Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette troisième et dernière édition du JT du jour le plus long. Ça y est, le mercato a officiellement fermé ses portes en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre et en Espagne. Ça n'empêche pas
les
clubs
de continuer. Voilà, c'est le générique du JT de foot mercato que Josué avait reconnu, j'imagine. C'était le 1er septembre dernier.
Faut espérer.
Oui, parce que les garçons étaient un peu plus dubitatifs. Quoi. donc c'était le 1er septembre dernier, lors de la clôture du marché des transferts. On dit que c'est la nuit la plus longue pour les agents, pour les joueurs, pour les directeurs sportifs et aussi pour les journalistes, Josué.
Étonnamment, cette année, alors déjà la fermeture s'est faite à 20h et pas à minuit.
Donc c'est pas la nuit, quoi, c'est la journée, ouais.
Ouais, et je vais même plus loin que ça, c'est que étonnamment, la dernière journée du mercato, cette année en tout cas, enfin cet été, a été, moi en tout cas dans ma façon de travailler, relativement calme. Dans le sens aussi où il y a eu beaucoup moins de mouvements, où que les choses étaient déjà entérinées, les dossiers étaient déjà bouclés, donc ça a été entre guillemets que des officialisations, mais il y a eu beaucoup moins de je pense à des transferts ratés à Malangsar qui m'avait l'hiver dernier valu de me coucher vers 3h30, 4h, parce qu'on était dans l'incertitude de savoir s'il allait partir, venir, pas partir. Donc j'étais en appel constant avec agent, avec directeur sportif, avec Mathieu. Il était arrivé au HAF, puis en fait, il a été rappelé. Un peu ce qu'on a vécu là, dans des proportions plus grandes, avec Nicolas Jackson, qui était arrivé à Munich, et Chelsea le rappelle. Voilà, il y a des mouvements comme ça, des fois, où ça devient un peu lunaire. Mais cet été, moi, j'ai trouvé. Alors, certes, j'ai énormément travaillé entre guillemets en termes de d'heures de sommeil ou pas de sommeil. Mais sur la dernière journée, j'étais plutôt calme.
Il faut être un spécialiste du Stade Rennais pour pas avoir une dernière journée agitée dans le mercato.
Oui,
c'est vrai. C'est une période, on imagine, qui est quand même particulière. Il faut démêler le vrai du faux, c'est votre bon boulot, mais on peut être aussi entre guillemets instrumentalisé quand on est la presse par des agents, par voilà.
Évidemment. Alors déjà, un mercato, enfin moi en tout cas dans ma façon de fonctionner, parce que je pense que tout le monde fonctionne différemment, un mercato, moi je le prépare, enfin ça se prépare en fait. Je peux pas arriver le 1er juillet et dire j'ai envie d'avoir des infos, donc je vais appeler un tel et voilà. C'est un rapport de confiance qu'on installe tout au long de l'année avec plus ou moins de portefeuille en fait. Une fois qu'il y en a un qui a voulu nous instrumentaliser, moi c'est simple, hein, c'est ça m'arrive, donc c'est un one shot comme on appelle ça. Je lui fais confiance et si ça s'avère juste, je vais continuer à travailler avec lui. Si ça s'avère faux ou qu'il a voulu entre guillemets monter en grade son joueur parce qu'il lui cherche une porte de sortie, le numéro je le sors de mon téléphone et c'est terminé. Mais c'est ma façon de travailler avec les agents, etc. Moins avec les directeurs sportifs, parce que les directeurs sportifs sont jamais là forcément pour te survendre un truc. C'est pas leur intérêt. D'ailleurs, les directeurs sportifs, c'est pas trop leur intérêt de parler aux journalistes, en général, parce qu'ils préfèrent garder. Ils préfèrent garder.
On l'a pas du tout vécu au Havre cet été, disons.
Pardon.
Je me permets de rigoler parce que ça me fait rebondir sur Mathieu Bonnemer, du coup, qui cet été avec un collègue de Paris Normandie, il nous disait non, moi je parlerai pas pendant le mercato, je parlerai à la fin. Ce qu'il a d'ailleurs totalement respecté, oui, je tiens à le dire. Le mercato c'était fini depuis une journée, qu'on avait le droit à un petit coup de téléphone de Monsieur Bonnemer. Donc, mais ça me fait sourire c'est du coup par rapport à ce que tu dis et tout. Ça
me fait sourire aussi parce que comme vous avez pu le voir, je pense qu'il y a eu quelques passes d'armes entre guillemets à distance et j'ai refusé de rentrer trop là-dedans. Mais oui. Après, c'est encore une fois, c'est un rapport de confiance. Moi, ça m'a pas empêché de parler tout l'été avec Mathieu. Ça veut pas dire que je vais sortir une info, mais ça m'empêche pas de parler avec lui, de savoir ce qu'il y a derrière ou pas, ce qu'il est en train de préparer, ce qu'il cible comme profil. Une fois que le rapport de confiance, pour moi, c'est voilà, faut que ça soit quelque chose d'assez sain. Mais on va dire que c'est un peu inédit. Je veux dire, par exemple, la relation que j'ai avec Mathieu Bonnemer est assez inédite par rapport à celle que je peux avoir avec d'autres directeurs sportifs en France ou à l'étranger. Après, la majorité de mes infos vient souvent d'intermédiaires ou d'agents. Ça, c'est 80% de ce que je peux avoir, c'est plutôt lié à ça.
Il y a beaucoup de veille aussi. C'est ça la préparation qu'il faut faire avant le avant et pendant.
Il y a beaucoup de veille, il y a beaucoup d'humilité aussi à avoir dans le sens où moi, je sais aujourd'hui que voilà, je me concentre beaucoup sur le Havre et sur le PSG. Mais je me prétends.
C'est bien, en plus, c'est
les
mêmes types de joueurs qui sont ciblés, donc c'est pratique.
Ouais,
puisque
ouais.
Kechta et le Dembélé du Havre, j'ai retenu.
Ouais. En général, Rodrigo, je demande à Mathieu s'il le veut.
Et il répond non. Et il répond non, bien entendu.
Non, il me répond qu'il prend Rodrigo et Vinicius, donc ça va. Non, mais voilà, c'est mon métier. Enfin, c'est une partie de mon métier parce que c'est pas que mon métier. Mon métier, c'est quand même de suivre le PSG, l'équipe de France, ça c'est mon fil rouge, c'est d'avoir des papiers d'analyse, etc. Je fais des sujets transversaux sur plein de choses. J'ai un parcours économie, gestion de patrimoine et tout, donc j'aime bien aussi mettre en relief certains sujets qui touchent au sport, enfin au foot notamment. Mais c'est vrai que bah il y a un moment donné dans l'année où je suis focus sur le mercato. C'est pas forcément mon rêve de faire ça parce que c'est très énergivore et encore une fois démêler le vrai du faux, de jouer à une sorte de poker menteur. Bon, au bout d'un moment, t'es fatigué et tu dis bon, soit tu veux me lâcher le truc, soit tu me lâches pas, mais on passe à autre chose. Donc voilà, je me prétends pas avoir des infos partout. Je sais que sur certains clubs ou certains joueurs, bah j'ai une facilité d'accès et que je conserve et que je. Mais c'est au-delà du mercato en fait, c'est que je conserve des relations complices. Je vais pas dire d'amitié, mais complices avec certains joueurs. Mais ça va durer sur toute l'année. On va s'envoyer des messages après la sixième journée pour savoir comment s'est passée sa prestation, etc. Ça va pas être juste de l'appeler pour dire alors c'est quoi ton prochain club ou c'est quoi ta prochaine revalorisation salariale. Ensuite, petit à petit, évidemment, ça fait 4 ans maintenant que je suis à Foot Mercato. J'ai commencé en télé, mais ça fait 4 ans là que je suis quand même lié au mercato. Petit à petit, c'est évident. J'essaye d'agrandir mon portefeuille client, on va dire, en termes d'agents, en termes de joueurs, en termes de directeurs sportifs. Et petit à petit, des portes s'ouvrent ou s'ouvrent pas, mais voilà, c'est ma façon de faire en tout cas.
Il y a des appels entrants, comme disent les commerciaux.
Exactement.
Non, puis ce qu'on peut dire sur l'évolution juste de la profession de journaliste, c'est vrai que bon, il y a 10, 15, 20 ans, il y avait beaucoup moins de médias qu'aujourd'hui.
Oui.
On est bien placé pour en témoigner. Et donc forcément, les infos elles sortent aussi par différents canaux. Alors qu'avant il y avait peut-être 2-3 médias qui sortaient des infos et aujourd'hui sur une semaine et sur le même club un coup ça peut être Foot Mercato, un coup ça peut être nos confrères de Paris Normandie, un coup ça peut être un autre média, enfin je veux dire aujourd'hui si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité du foot ou de la Ligue en général c'est pas un seul média que vous devez suivre, hein, c'est une multitude et donc c'est vrai, et tant mieux entre guillemets pour le fan de foot. Parce qu'in fine, c'est lui qui, enfin, entre guillemets, on bosse aussi pour lui. C'est là l'intérêt. Donc, le fan de foot, lui, il est content. J'ai envie de dire, peu importe que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui sortent l'info, lui, du moment qu'il a l'info, il est content et ça lui va très bien. Et donc là, plus il y a de médias et plus il y a de médias qui font bien leur métier, comme Josué le fait en matière de mercato. Hein. Je pense que ses tweets étaient particulièrement suivis et même attendus, j'ai envie de dire, par la communauté ciel et marine. Et tant mieux pour le footeux et c'est ça qui est important au final. Voilà, c'est. que l'info elle soit bonne en fait.
Après, dans l'écosystème, ça va même plus loin aujourd'hui. C'est quand tu parlais de la multitude de médias qui se met sur ce créneau-là, on va dire, mais ça dépasse même ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment, pour le coup, pas du tout de la profession, mais qui ont un lien particulier avec, je sais pas, le cousin d'un tel, la mère de tel joueur, le directeur sportif de tel club, qui va lui-même de son côté sortir une info, qui va pouvoir être d'ailleurs totalement vérifiée à la fin. Ça aussi, c'est un paramètre à prendre en jeu. Et là, je tempère avec ces limites énormes, parce que il y a aussi une multitude de saucisses, comme on aime appeler ça dans le métier,
de fake news
qui sont sortis pour différents intérêts. Hein. Ça peut juste être de déstabiliser un club pour le plus grave, jusqu'à essayer de mettre en valeur un joueur pour le moins grave. Mais voilà, c'est le jeu du mercato, on va dire. Moi, j'appréhende vraiment cette période-là comme un jeu.
Ouais, mais après, on sait que, par exemple, le fan de foot, après, il fait son tri aussi naturellement. Si oui. sur 10 infos mercato, il y en a 9 qui sont pas bonnes, bah, au bout d'un moment, on va rapidement vous squeezer. Et à l'inverse, si c'est 9 bonnes sur 10, bah, on sait que quand il y a une info qui sort par tel biais, bah, on sait que le degré de fiabilité est plutôt important. Donc,
clairement, ouais.
Donc forcément, clairement. Après, le fan de foot, il est pas idiot. Hein, il fait sa sélection et donc il fait ses petites veilles, tout seul.
Ouais, c'est ça.
Un petit mot parce que le mercato d'hiver donc ouvre le 1er janvier. Est-ce que je crois que d'ailleurs la question avait été posée à Mathieu Bonnemer par Mathieu Billot ici présent. Est-ce que Foot Mercato bossez déjà sur ce mercato d'hiver? Il y a aussi des marchés qui sont pas encore clôturés. Je crois que le Qatar ça termine.
Ouais, alors là on est quand même bien. Enfin, j'ai pas vérifié, mais on doit être seulement sur les marchés peut-être asiatiques type Qatar ou Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite. Il doit rester peut-être, mais
j'ai pas vérifié, mais il en reste plus beaucoup.
Voilà, parce que la mi-septembre, c'était quand même la deadline.
Le 12-13 septembre, il y en avait plein qui fermaient.
Donc là, on est vraiment arrivé pour cette période-là, quasiment à la fin. Quand même.
Ouais. Par exemple, j'en ai parlé à Mathieu il n'y a pas longtemps, en lui demandant si le mercato était totalement terminé, notamment dans le sens des départs, parce que c'était un peu l'interrogation de beaucoup.
Avec une offre qui pourrait tomber de dernière minute, éventuellement.
Voilà, c'est ça. Et il m'avait dit que, sauf blessure, tout était bouclé. Donc il n'y aura pas forcément de mouvement dans l'immédiat. Après, aujourd'hui, c'est déjà, là, ça dépend pas que du journaliste, hein, c'est le club aussi est en train d'incorporer ses nouvelles arrivées, ses nouvelles recrues. Donc, évidemment que ça va bosser mercato très rapidement, parce que finalement, le mercato hivernal va arriver très vite. Il y aura plein de choses. Il y aura la CAN, il y aura la Coupe du Monde, il y aura des blessures, il y aura énormément de paramètres à prendre en compte. Concernant Le Havre, il y a évidemment, l'aspect économique qui va être à suivre de près, c'est-à-dire dans quelle mesure Le Havre va passer un step ou non dans les mois à venir sur encadrement ou non, sur est-ce qu'ils vont pouvoir commencer à financiariser quelques mouvements ou non. Tout ça va forcément, mais évidemment que oui, moi de mon côté, je vais commencer à travailler, peut-être pas là dans l'immédiat parce que la Ligue des Champions arrive et je suis sur d'autres choses, mais très rapidement, je vais commencer à m'intéresser à ce qui est en tout cas envisageable, faisable, considéré, ciblé en termes de profil pour cet hiver.
Justement, puisqu'on parle Ligue des Champions, je saisis la balle au bon avec cet actu Ballon d'Or qui arrive prochainement, d'avoir un journaliste suiveur du PSG et originaire de l'Eure. Un petit mot sur Ousmane Dembélé, sur ses chances pour ce Ballon d'Or.
Il le mérite en tout cas. Il le mérite. Là, je ne vais pas faire une réponse de Normand, il sort d'une saison... de la meilleure saison de sa carrière, que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Alors je sais que pour beaucoup, le Ballon d'Or est aussi doit aussi avoir une sorte d'étiquette de, comment dire ça, d'esthétisme. Donc pour beaucoup, Lamine Yamal représente ce côté esthétique du football, ce côté précurseur, très jeune, très précoce, hyper technique dans un club autant historique que le Barça. Mais factuellement, si on s'en tient un peu au fait, Dembélé c'est un parcours parfait, c'est un 5 sur 5 avec le PSG, c'est une Ligue des Champions, la première de l'histoire d'un club. C'est lui qui a quand même révolutionné le jeu du PSG cette année en venant se positionner, enfin lui en tout cas en répondant à la demande de Luis Enrique de venir se positionner là et d'y répondre de cette manière. C'est assez exceptionnel. Je pense que les 6 derniers mois du PSG, Dembélé y est pour beaucoup et il a été grand acteur de ça. J'oublierai pas certains Achraf Hakimi, Vitinha, Donnarumma qui fait une phase finale de Ligue des Champions exceptionnelle qui pour moi mérite tout cela d'être dans le top 10 du Ballon d'Or. Mais Dembélé est quand même le facteur X de la dernière saison.
Messieurs, un mot à rajouter ?
Non, rien à voir avec le Ballon d'Or, hein. je reviens un peu sur, plus sur le hack.
Ouais. Et pourquoi pas ?
Il
n'y aurait pas un lien.
Non, j'avais une petite question à Josué. Oui. Avec l'arrivée de Blue Crew, est-ce que tu as senti des changements un petit peu sur la manière de faire ou pas ? Même non, notamment dans le mercato, ou est-ce que justement ça n'a pas changé grand-chose ?
Absolument pas. D'ailleurs, c'est le discours d'entrée. Il y a eu beaucoup de rumeurs, notamment, qui sont sorties à ce moment-là et qui sont à juste titre... c'est normal, en fait, d'avoir ça, parce que dans tout rachat, il y a toujours la question de est-ce que ça va bouger en termes de, d'une part, de présidence, mais même sans parler de présidence, de management, de façon d'opérer. Il faut rappeler une chose, c'est que ça soit Vincent Volpe avant ou aujourd'hui Jeff Leno. La présidence, c'est Monsieur Roussier qui la tient. Ça sera pas Jeff Leno qui va signer n'importe quel contrat comme Vincent Volpe n'en signait aucun. Alors il y a évidemment, comme n'importe quelle entité, un droit de regard plus qu'important. Mais la présidence, le management, le trio Momo Alcaraz, Mathieu Bonnemer est le même. La façon de travailler est la même. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, par exemple, autour de Blue Crow et sa spécificité dans la data, ce qui est vrai. Hein. Mais je pense qu'avec Julien Momon, on est sur, pareil, une des références dans notre championnat sur ce travail de la data. Peut-être avec le groupe Red Bull qui vient de s'affilier au Paris FC avec le projet Arnaud. Mais ça va être encore une fois un travail. Ils sont pas venus, ils l'ont dit eux-mêmes, et Jeff l'a dit lui-même. Ils sont pas venus pour révolutionner un club. Ils sont venus pour, d'une part, quand même venir lisser une situation économique qui était inquiétante, on peut dire le mot. Donc ça, c'est la première étape. Ils ont pas demandé de folie, ils ont pas fait de folie, ils ont pas, je pense, la capacité d'en faire. Que ce soit dans leurs différents clubs satellites, ils ont jamais investi des 10, 15, 20 millions sur un joueur. En tout cas, c'est à court terme, ça sera évidemment pas le cas. Il y a toujours un encadrement de la masse salariale et un gros regard sur comment on gère cette masse salariale-là. Et ça a été demandé, ça, sur le mercato, de pas faire de folie à ce niveau-là. Donc ça, Mathieu a aussi ciblé les profils en fonction. Il a approché je ne sais combien de joueurs, 200, 300, j'en sais rien, cet été. Voilà, il y a eu plein d'approches où la cible s'est arrêtée parce que salarialement, ça collait pas au projet du Havre. Mais en tout cas, en termes de façon de faire, de travailler, l'ADN famille reste le même.
Eh ben c'était le mot de la fin. On va terminer comme d'habitude avec un tour d'horizon des autres formations du HAC, à commencer par les féminines avec une nouvelle compétition ce week-end, la toute première coupe de la Ligue chez les dames, et ça démarre mal hein, pour les joueuses de Maxime Di Liberto. Défaite 1-0 face à Nantes qui était l'autre équipe d'Arkema Première Ligue dans cette poule, donc en gros pour se qualifier en quart. Ça va être très compliqué, il faut compter sur un exploit des équipes de seconde ligue qui sont dans cette même poule. Ouais. On verra ce que ça donne. En tout cas ce week-end, reprise du championnat d'Arkema Première Ligue avec un déplacement à Marseille.
C'est ça qui compte, après un match nul de 2 contre Strasbourg en ouverture du championnat. Je pense que la Coupe de la Ligue, c'est un peu un gadget.
Ça donne juste du temps de jeu pour...
Mais c'est très bien,
parce que le calendrier était très allégé.
Se qualifier ou pas, c'est pas très important.
Voilà, bon, en tout cas, ça occupe un petit peu de temps.
Ah, mais par contre, ça donne du temps de jeu et ça donne des vrais matchs officiels, donc ça, c'est très bien.
Du côté des jeunes, après une défaite vendredi 6-1 en Challenge Espoir face à Nantes, ça s'est beaucoup mieux passé ce week-end. Victoire du HAC au tir au but dans la Coupe des réserves de Normandie. Après un nul 3-3, c'était face à l'AL Devil Marom. Les U19 qui poursuivent sur leur lancée. Quatrième succès en 4 matchs pour les jeunes coachés par Jair Karam. 2-0 face au Racing Club de France, des Hagmen qui sont toujours leaders. Une première victoire pour les U17 face à Bretigny, score final 3-2. Les Havrais qui sont 7e au classement. Et puis un festival de buts hein, sur la pelouse de QRM pour les U19 féminines, 7-1 face aux promus, sachant qu'il y avait un partout à la mi-temps, donc ça aurait pu tourner complètement autrement. Mais bon voilà, les Havraises qui sont deuxième au classement. C'est ainsi que s'achève donc ce deuxième débrief 100% HAC de la saison. Un grand merci à Josué Cassé d'avoir été en notre compagnie. On peut vous lire sur footmercato.net. Là, je sais pas, j'ai pas regardé la une en ce moment, mais...
Je l'ai pas non plus, hein, parce que là, je suis vraiment focus Le Havre avec vous, donc...
Ça doit parler de Ligue des Champions, à mon avis.
Je pense qu'il y a un petit Marseille-Réal ou quelque chose comme ça.
Il paraît que c'est au programme aussi, pareil, ouais. C'est au programme cette semaine.
Et puis merci également aux partenaires de Tendance Ouest, Mathieu Billot, footnormand.fr. On évoque en ce moment notamment le changement d'entraîneur chez QRM, chez les garçons hein, cette fois. Et Luc Garrigue-Gallet du Courrier Cauchois en kiosque à partir de vendredi là, du côté des sports. On parle d'un trail complètement inédit, un ultra trail même.
L'ultra trail des trois ponts ouais, qui voilà. Va s'élancer vendredi à 18h du côté de l'abbaye de Gruchier. Et puis aussi quelques retours sur la Coupe de France avec notamment nos petits poussés cauchois qui ont été éliminés mais n'ont clairement pas démérité face à des équipes de niveau régional.
Voilà, c'est-à-dire donc dans le Courrier Cauchois, le débrief 100% à retrouver évidemment sur tendanceouest.com, Deezer, Spotify et chez nos partenaires. Fin de partie et à très bientôt.